Je vous propose donc d'écouter Coralie, qui est doctorante en sciences politiques et qui va donc nous parler des corps punk en squat. Merci Coralie.
Merci. Je vais me baser dans cette présentation en fait donc sur ma thèse, que je suis à la fin de la première année là, où je m'intéresse aux squats et à l'histoire des squats, grosso modo des années 90 à aujourd'hui. Et là, je vais me baser pour cette communication sur des entretiens et des observations auprès de punks vivant en squat. Donc, ce qui correspond grosso modo à la troisième génération, donc des personnes qui ont entre 35 et 50 ans aujourd'hui, et comparé à une génération plus jeune qui va avoir 18, 25 ans aujourd'hui. Je vais d'abord revenir brièvement sur ce que j'avais présenté dans mon mémoire en sciences politiques, c'est-à-dire l'idée d'une carrière punk au sens de Howard Baker, donc une carrière déviante, qui se positionne de manière un peu critique par rapport au processus de civilisation des mœurs. Et ensuite, je viendrai au cœur de mon propos, qui est de montrer en fait les évolutions qu'il y a dans le rapport au corps entretenu par les punks dans les squats. Donc pour revenir brièvement sur la carrière punk, donc dans l'idée de carrière déviante, il y a plusieurs étapes. Je vais passer vraiment très rapidement, mais en gros, la première étape, ça va être... Donc la première et deuxième étape peuvent parfois s'inverser, mais la première étape, ça va être d'aimer la musique, l'esthétique et d'endosser l'habit punk. La deuxième étape, ça va être une étape de socialisation par le groupe de pairs, la rencontre avec sa bande, le fait de se mettre en scène publiquement et de développer une sensibilité pour certaines choses qui, dans les normes dominantes, ne sont pas valorisées. Le goût du laid, du mauvais goût, de l'usé, de ce qui va contre aussi des normes bourgeoises. Et on peut voir aussi là un rapport de classe, hein, en valorisant certaines choses comme la grossièreté ou une acceptation plus grande acceptation de certaines formes de violence, par exemple. Ensuite, il va y avoir une étape qui va être le moment où on ne joue plus, qui va se manifester en tout cas dans les trajectoires de mes enquêtés par des étiquetages institutionnels. Là, c'est plus une identité qu'on affiche de manière choisie, mais on va subir un stigmate par sa famille, par les institutions, parfois un passage par l'hôpital psychiatrique ou des choses comme ça. À ce moment-là, dans leur trajectoire, les personnes vont se mettre à redéfinir subjectivement ce que c'est être punk. Et être punk, ça va plus être écouter une musique ou jouer une musique ou être habillé de manière punk, mais ça va être défini comme une manière d'être, de faire, de sentir, un humour, des choses un peu impalpables qui montrent que voilà, on peut pas être punk comme ça juste en mettant un perfecto et en se faisant une crête. Pour certaines personnes, être punk, ça va être aussi avoir appartenu à un mouvement à une époque donnée. Et donc, si on a raté cette époque, eh ben, c'est trop tard, on peut pas en être. Et à ce moment-là, en fait, être punk, ça va être quelque chose qui va être inscrit dans les corps. Et ça, c'est quelque chose qui se remarque à travers, bon là, c'est un exemple hein, parmi d'autres choses, l'exemple de la dépendance, le rapport notamment à l'héroïne, par exemple, qui va, d'une certaine manière, authentifier l'identité punk, c'est-à-dire que quand on est toxico, bah, on ne joue pas, voilà, on subit véritablement cette identité punk. Donc là, à ce moment-là, cette identité punk, elle devient naturelle, voire subie, du coup. Au terme de cette carrière, il y a une subjectivité punk qui va se développer et qui va se positionner de manière critique au processus de civilisation des mœurs de Norbert Elias, c'est-à-dire avec une acceptation un peu plus grande de la violence, de la grossièreté ou de certaines normes qui vont choquer la société entre guillemets normale. Pour en arriver au cœur de mon propos, donc sur l'évolution des modes d'engagement des corps punk au sein des squats, je vais commencer par m'intéresser au processus de civilisation des corps des punks dans les squats. Et dans une deuxième partie, je m'intéresserai au processus de civilisation qui touche les corps des personnes qui vont dans les concerts punk en squat, ce qui est légèrement différent. Donc le processus de civilisation des corps des punks dans les squats, il y a plusieurs phénomènes qui vont éclairer la manière dont va se passer ce processus. Il y a un premier phénomène qui apparaît naturel, si je puis dire, c'est le fait que les punks vont simplement quitter les squats. Parce que des personnes, donc voilà, là je me base un peu sur un collectif de squatteurs punk qui a squatté en région parisienne, ou aussi dans une ville moyenne entre 2000-2013 à peu près, et qui ensuite va se séparer. Et ce qui se passe, c'est que donc des personnes vont quitter les squats pour, alors, ce que j'ai appelé entrer dans l'âge adulte, c'est-à-dire se mettre à travailler, souvent en capitalisant des expériences qu'ils ont acquises en squat ou sur la scène punk. Il y a beaucoup de personnes qui vont devenir techniciens son et lumière, ingé son, qui vont devenir intermittents du spectacle. Ou même, et là je le range encore dans la capitalisation des expériences acquises en squat, par exemple, éducateur spécialisé en fait, travailler auprès de personnes voilà, pour les aider bon, dans le social. Il y a le rôle de la mise en couple, et plus encore après les personnes qui veulent avoir des enfants, mais ne serait-ce que la mise en couple, voilà, le fait d'avoir un habitat individuel. Donc là c'est des personnes qui entrent dans l'âge adulte et qui vont rester quand même proches de la scène punk, qui vont continuer de fréquenter les concerts par exemple de manière occasionnelle, mais voilà, sont plus aussi actifs qu'auparavant. Ensuite, il y a une deuxième catégorie, ça va être les personnes qui vont donc prendre leur retraite, j'ai appelé ça comme ça, mais c'est-à-dire des personnes qui vont plutôt s'éloigner géographiquement, partir vivre à la campagne, acheter un terrain, vivre dans des lieux collectifs à la campagne, mais en tout cas, ou en camion, mais en tout cas s'éloigner géographiquement et donc sortir un peu plus clairement de la scène, puisque ils vont plus se rendre au concert tout le temps. Ça va être vraiment s'il y a un gros festival ou un événement vraiment spécial qu'ils vont être là, mais ça devient vraiment beaucoup plus ponctuel. Et enfin, un dernier facteur qui va être le nombre important de décès, voilà, très précoce de certaines personnes, qui fait que bah voilà, tout ça participe au fait que un certain nombre de punks qui vivaient en squat quittent progressivement ces espaces. Un deuxième phénomène, ça va être le fait que y a des nouveaux entrants qui arrivent dans les squats et qui eux vont être plus normaux, plus conformes au processus de civilisation. Donc là, j'ai mis un extrait d'entretien, je vais peut-être pas le lire en entier pour pas perdre trop de temps, mais en gros, ce qu'on peut retenir, voilà, c'est que donc là, c'est une personne qui a globalement le même âge que mes enquêtés punk, hein, qui a la quarantaine à ce moment-là, mais qui vient pas du tout de ce milieu-là, qui est pas du tout punk, et qui se retrouve en squat avec des punks, et qui explique comment il essaye de les discipliner, en fait. En leur disant notamment, voilà, il faut se laver les mains quand on sort des toilettes, il faut ne pas fumer dans les espaces communs. Donc vraiment des choses, rapport au corps, très primaires, si je puis dire, c'est-à-dire vraiment l'hygiène corporelle, le tabac, l'alcool, l'alimentation, qui va vraiment d'une manière volontariste essayer de transformer les comportements de personnes qui vivent en squat depuis des années, quoi. Donc là, j'ai un deuxième exemple d'une personne, donc Gaïa, qui a la vingtaine, une jeune fille qui se retrouve en squat avec des personnes qui squattent depuis une dizaine d'années, qui sont punk, et voilà, qui dit qu'ils veulent pas cuisiner, qu'ils veulent pas faire de réunion, ils veulent pas participer à la vie collective, et donc qui va donner des injonctions de participation à la vie collective à ces punks, voilà, qui restent dans le salon. D'ailleurs, elle sait même pas si elle doit les appeler les quepons ou les schlags, ça se mêle un peu pour elle. Et donc on voit là une volonté d'intervenir dans le corps punk à un autre niveau que l'hygiène corporelle, le tabac, etc. C'est-à-dire que là, il y a à la fois une exigence de participer à des réunions. Donc les réunions, c'est quand même un rapport au corps très particulier. Il faut rester immobile, il faut pas couper la parole, il faut rester assis, ne pas se lever, faire des allers-retours, parfois ne pas fumer. Et en même temps, il faut que le corps soit en activité, il doit être productif, il doit être actif. Il y a des exigences de participation à la vie collective qui vont être plus élevées chez ces nouveaux entrants qui ont été davantage socialisés au milieu militant et donc qui ont des exigences plus élevées. Ensuite, il y a un troisième phénomène, donc il y avait les punks qui quittent le squat, les nouveaux entrants, et il y a des punks qui restent en squat, donc parfois depuis 10, 20, 30 ans. Et parmi ces personnes-là, il y en a qui vont devenir, donc moi ce que j'ai appelé dans mon mémoire de sciences politiques, des punks repentis. C'est-à-dire qu'ils vont changer progressivement leur manière de concevoir les choses. Donc là, je vous ai mis un peu un exemple qui est assez caractéristique. Donc Lou, voilà, qui est le punk repenti, qui se plaint de Ticon, qui est venu avec son pack de bière en mode bourrage de gueule. Voilà, il dit qu'il allait voir Ticon chez lui, qu'il parlait tout le temps de drogue, bière, chien, camion. Voilà, ils sont dans leur truc de punk, ils voient que des punks, tout le reste c'est de la merde, et le pire c'est qu'ils voient toujours les mêmes gens, mais ces gens ont eux-mêmes évolué, mais eux n'évoluent pas. Donc ensuite il me dit que lui aussi avant il était comme Ticon, il le connaît depuis au moins 10 ans, et que justement quand il voit Ticon, il a l'impression de se voir lui-même il y a 10 ans, il a envie de lui mettre des baffes, que justement un jour il s'est dit voilà, j'ai fait de la merde pendant 10 ans, mais maintenant je vais changer, avant j'avais des comportements de merde. Donc là, bon, c'est un exemple de tendance repentie qui est vraiment assez radicale et qui va passer par donc Lou, qui est une personne qui va devenir vegan, queer, quasiment straight edge. Il y a d'autres formes de punk repentie que moi j'ai rencontré en squat qui sont pas aussi véhéments, on va dire, dans leurs critiques, qui peuvent l'incarner de manière plus douce. Mais en tout cas, ils vont se faire entrepreneurs de morale en fait et demander aux vieux punks qui ont qui sont les moins conforme de modifier leur comportement. Ce qui est critiqué à travers cet exemple, ça va être que le corps punk, globalement, prend trop de place physique. Donc les chiens sont critiqués, ils prennent trop de place. Faire la fête dans le salon, ça prend trop de place. La fumée, ça prend trop de place. Mais ils prennent trop de place symbolique aussi. Lou, par exemple, il va sérigraphier des patchs qui disent « punk ou flic, l'uniforme est pathétique ». Donc c'est quand même fort en signification. Ils prennent trop de place au niveau sonore, ils parlent trop fort, ils écoutent de la musique trop fort, ils font voilà, la fête, être bourré, ça prend trop d'espace sonore. Et globalement, ces punks repentis, en fait, ils vont critiquer le fait que les autres punks n'entrent pas dans l'âge adulte, ne se civilisent pas, parce qu'ils n'intègrent pas les autocontraintes que les punks repentis intègrent. Ils intègrent ces autocontraintes avec le temps, avec l'âge, mais aussi liées aux expériences de squat, c'est-à-dire la volonté de pérenniser un squat en se faisant bien faire voir des voisins, en entretenant un certain capital de conformité, il ne faut pas gêner les autres membres du collectif. Voilà, ils acquièrent toutes ces compétences-là en squat et ils attendent des autres qu'il soit pareil. Donc là, dans cet extrait d'entretien avec Psycho, qui est un exemple de quelqu'un qui squattait déjà il y a 30 ans, qui a la cinquantaine, et qui se retrouve dans ce que certaines personnes qui habitent dans cette maison aujourd'hui appellent une maison de retraite pour punk, où ils sont vraiment entre personnes un peu du même âge, qui ont été rejetées de plusieurs squats. Et donc lui, il raconte qu'il s'est fait virer d'un premier squat, puis il atterrit dans un deuxième. Mais dans ce deuxième squat, il y avait des gens qui étaient un peu dictateurs et dictatrices, qui calculaient le nombre de bières que tu bois le soir, pourquoi t'es bourré. Donc il compte le nombre de bières que tu bois. Moi je lui demande, il compte le nombre de bières que tu bois dans les bières collectives. Il me dit non, dans tes bières à toi. Il dit on t'accepte au début parce que t'es punk et tout, c'est cool, t'es rebelle, t'es rock'n'roll, t'es tatoué. Mais une fois que t'es dans le truc, t'es trop. Pour eux j'étais trop, parce que je suis trop si, parce que je picole trop, parce que ceci, parce que cela, parce que je bugle trop. Et donc je lui demande est-ce qu'ils étaient punk les gens de ce squat. Il me dit non, c'était plus un délire, c'était des meufs, délire féministe, anarcho, anticapitaliste et solidaire de rien. Et du coup, finalement, après ça, il se retrouve pendant 2 ans à droite, à gauche, à dormir chez des copains. Il dit, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus rien. Donc quand il dit il n'y avait plus rien, finalement, il dit il n'y avait plus de squats dans lesquels je pouvais être admis. Parce qu'à cette époque-là, il existait quand même des squats là où il se trouvait. Mais il n'arrive plus à s'intégrer dans les squats parce qu'il n'est pas conforme. Et on voit bien comment le processus de civilisation va aussi passer par cette exclusion répétée. C'est-à-dire que lui se fait exclure à plusieurs reprises de plusieurs squats. Et donc, il va progressivement se remettre en question et adapter un peu, en tout cas, son comportement. Donc, que peuvent faire les punks les plus nos futurs face à toutes ces évolutions? Soit squatter entre vieux punks dans des squats qui sont souvent plutôt des squats d'habitation. Donc, ils vont plus organiser de concerts, ils vont plus, ils vont rester entre eux au moins dans un espace où ils se font pas rejeter de partout. Ils peuvent aussi essayer de s'intégrer dans des squats où il y a plein de nouveaux entrants, plus jeunes, qui ont donc des socialisations différentes, et soit évoluer eux-mêmes vers la tendance repentie, soit se faire rejeter de ces lieux. Ou soit, et donc là c'est une troisième forme d'intégration que je trouve assez intéressante, qui est le fait de devenir la mascotte de squat. Et alors la mascotte, ça a ça d'intéressant qu'en étant la mascotte, on est l'unique. C'est un statut qui permet une sorte de passe-droit, donc on a le droit de ne pas se conformer à toutes les règles attendues par le collectif, mais on a le droit de ne pas se conformer parce qu'on est le seul qui ne se conforme pas. Et ça marche parce que les squats militants ont cette volonté d'être inclusifs, bienveillants envers des gens qui viennent de la rue, qui ont des problèmes ou des trajectoires difficiles. Donc ils vont accepter une personne un peu différente, mais c'est un peu la caution, c'est-à-dire comme on aurait son ami noir, on aurait son co-squatter vieux punk. Donc il y a cette forme d'intégration qui est possible, en tout cas devenir la mascotte. J'en arrive à ma deuxième partie, qui est le processus de civilisation décor dans les concerts punk en squat. Donc là, il y a un premier phénomène que j'ai observé, qui va être le fait que... Je vais d'abord baser sur l'extrait d'observation. Donc là, je suis dans un squat qui organise régulièrement des concerts punk, où il y a beaucoup de personnes punk et très lookées qui viennent. Et je discute avec un des habitants du lieu, qui s'appelle Grégory, et qui me dit que leur squat n'est pas un espace dog-friendly, parce qu'il y a des gens de l'organisation du concert qui ont ramené leurs chiens. Il dit on a un squat à punk, mais pas un squat pour leurs chiens. Ensuite, il râle parce qu'il y a une fille du public qui a voulu se faire une trace de drogue dans la salle de concert. Il dit oui, il y a des voisins, il y a des enfants, il ne faut pas faire ça. J'observe qu'il y a tout un truc qui est mis en place autour du bruit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les gens stagnent dans la cour, qu'ils stagnent devant. Donc il y a des personnes qui vont garder la porte pour forcer tout le monde à rentrer à l'intérieur du squat et qu'il n'y ait aucun bruit. Que tout le monde écrive son nom et son prénom sur un registre au cas où il y aurait les flics qui viendraient pendant le concert pour dire qu'ils n'habitent pas là. Et ils refusent les personnes qui arrivent un peu trop tard à la soirée en disant non, c'est trop tard, on n'accepte plus personne, etc. Et là, donc, on voit ce dont se plaint Grégory, ça va être un peu la même chose que ce dont se plaignait Lou quand je parlais des punks repentis, c'est-à-dire les chiens prennent trop de place, le bruit c'est dérangeant, il faut faire attention aux voisins, la consommation de drogue, il faut vraiment qu'elle se fasse discrète. En fait, donc on n'est pas surpris, c'est un peu les mêmes critiques, mais ce qui est plus surprenant, c'est que là, ça va être pas dans le cadre de la vie quotidienne, mais dans le cadre d'un concert. Où on aurait pu s'attendre que dans un concert, il y aurait certaines normes qui auraient été mises temporairement entre parenthèses, et on voit que c'est pas le cas. Là, je vous donne un deuxième exemple avec cette fois-ci un entretien avec une jeune fille. Donc parce que Grégory, lui, il squattait depuis 20 ans, il était déjà dans les squats depuis 20 ans. C'est simplement c'était là. Olivia, c'est une personne qui a 20 ans et qui habite dans un squat qui organise aussi des concerts punk. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est pas du tout les mêmes critiques qui sont formulées entre les personnes plus âgées et les personnes plus jeunes. Par exemple, dans leur squat où ils organisent des concerts, il y a des chiens, la drogue est tolérée, il n'y a pas de problème de bruit avec les voisins, ça les dérange pas spécialement. Donc là, dans son entretien, ce qu'elle raconte, c'est que elle a commencé à faire du bénévolat dans un CARUD avant de elle-même consommer de la drogue. Et c'est dans le CARUD qu'elle a rencontré quelqu'un qui vivait en squat et qu'ensuite elle s'est mise à vivre en squat. Ce qui fait que ça témoigne en fait d'une sorte d'inversion en fait dans la trajectoire. Ça va expliquer, à mon sens, un rapport un peu différent, que ce soit à la drogue, aux soirées et à la fête en général. Donc Enzo, qui habite dans le même squat que Olivia et qui organise des concerts, voilà, lui raconte que ils accueillent des concerts punk, mais donc c'est des vieux punks qui organisent les concerts et qui viennent, voilà, qui programment les groupes, etc. Et du coup, pendant le concert, les vieux qui avaient organisé, ils disaient « Oh la vache, mais le punk est devenu vachement safe ». Et lui, il dit « Ouais, c'est vrai que les meufs sont beaucoup plus sécures qu'avant ». Et donc, il explique que dans notre squat, on avait un espace en mixité choisi, on avait une team anti-relou composée que de meufs. Voilà, on faisait un speech à l'entrée. Et donc, malgré avoir dit ça, ensuite, il explique que la première soirée qu'ils ont fait dans ce squat-là, au début, ils n'avaient pas du tout ça. Et voilà, la salle, c'était plus la backroom où on prenait de la drogue et on baisait. Et après, on a transformé ça, cet espace-là, en mode en non-mixité, en mixité choisie. Donc, à la fois, on voit que lui, pour lui, donc il dit ça fait un genou, lui, ça lui semble normal, que voilà, il y a des réflexions sur l'inclusivité, l'antisexisme, etc. dans les concerts, ça lui semble évident. Et en même temps, dans sa propre trajectoire, dans le même squat, on voit une évolution claire d'une même pièce qui change complètement de fonction, en fait, pour passer en gros d'un lieu de débauche à un lieu, voilà, de bienveillance, où on doit se sentir safe, etc. J'en arrive à ma conclusion. On voit qu'il y a une évolution à la fois des modes d'engagement des corps des punks dans les squats et des corps en général dans les concerts punk en squat. Donc évidemment, on s'éloigne de l'âge d'or du punk. Ça fait moins sens pour les jeunes aujourd'hui de s'identifier à ce mouvement-là. Mais voilà, là, le but de cette communication, c'était d'éclaircir un peu les conditions de cette difficile reproduction et transmission justement de cet être punk et le fait que le rapport au corps punk évolue. Donc ça soulève plusieurs questions. Je fais un peu une conclusion un peu longue pour voilà, ouvrir des pistes de réflexion. C'est à l'étape vraiment de recherche. Donc je trouve que ça soulève les questions de la reproduction sociale des punks et de la transmission. Qu'est-ce qui est resté en fait? Qu'est-ce qu'on conserve de ce mouvement-là? Donc ce qu'on observe, c'est quand même un éparpillement de l'héritage punk et un syncrétisme avec plusieurs contre-cultures. Donc à la fois ça se voit au niveau vestimentaire. Si on va dans les concerts en squat, on voit les jeunes en fait qui sont habillés. Donc dans un concert punk, ça passe très bien. Mais ils s'habillent pareil dans une soirée queer, ça passe très bien aussi. Et ils s'habillent pareil dans une soirée tough, ça passe très bien aussi. Qu'est-ce qui est contre-culturel et underground au niveau musical aujourd'hui? Pas sûr que ça soit encore le punk. Dans certaines villes que moi j'ai étudiées, ça va être plutôt la noise en fait qui va reprendre cette suite-là, à la fois dans le style musical, mais aussi dans le rapport au corps. En tout cas, ça va être moi dans des soirées noise que j'ai pu voir le côté voilà, l'hédonisme, les excès, le côté nos futurs, etc. Après, d'un autre côté, on va avoir un héritage plus de l'anarcho-punk qui va irriguer en fait des mouvements militants, les mouvements autonomes actuels, le mouvement queer, le mouvement vegan, etc. Et après, on va avoir un syncrétisme aussi avec le milieu des free parties et en fait les punks à chiens, la catégorie punk à chiens qui en fait recouvre à la fois des personnes qui écoutent du punk, qui écoutent de la techno, qui écoutent un peu des deux. Bon, voilà. Donc par rapport à cette question de la reproduction sociale et de la transmission, une des explications, ça va être aussi un certain conservatisme punk. C'est-à-dire ce discours qu'on entend souvent de « c'était mieux avant », des phénomènes de bizutage des nouveaux entrants, plus ou moins sympathiques selon les époques et les groupes de gens, mais qui rendent en fait l'entrée difficile pour les jeunes qui veulent s'intégrer. Enfin, Gaïa, là, dont je parlais tout à l'heure, qui racontait comment elle supportait pas en fait l'humour des vieux punks qui se moquaient d'elle en permanence, qu'elle se sentait super mal à l'aise. Un jour, elle s'est fait une crête, on lui a dit « on va te raser ta crête ». Du coup, elle s'est absolument pas identifiée au mouvement punk parce que, en fait, les plus vieux punks lui ont aussi barré l'entrée, quoi. Et aussi, cette redéfinition subjective de l'être punk qui considère que c'est pas en s'habillant punk et en écoutant de la musique qu'on l'est vraiment, puisque c'est au fond de son cœur, finalement, ça conduit à une forme de mépris pour les jeunes, puisque eux, ils ont que la musique et l'habit, mais ils ont pas l'âme. Donc tout ça, en fait, ça peut expliquer que les nouvelles générations vont se construire en opposition face à ça, et vont développer des discours anti-agistes, anti-sexistes, et ça, voilà, ça éclaire le fait que le milieu punk peine à recruter, à se reproduire, ou en tout cas, évolue en profondeur. Enfin, une dernière diapo, et après je m'arrête là. Tout ça soulève aussi un autre panel de questions, qui va être, voilà, qu'est-ce qui explique, en fait, ce rapport vraiment différencié des générations au corps? Donc moi, je vois plusieurs facteurs explicatifs. D'abord, il y a le développement des politiques de contrôle des espaces publics, les phénomènes de gentrification, des aménagements urbains, le fait que les bandes disparaissent de la rue, en fait, on empêche les gens de rester dans la rue. On parle plus de la famille, la zone, le lieu où on traîne, mais les gens en squat, en tout cas, vont utiliser un vocabulaire qui est plus basé sur une équipe, un milieu. Donc ça donne vraiment une idée qui est plus organisée. On s'organise avec un groupe de manière rationnelle pour suivre des objectifs et pas pour être ensemble. Bon, voilà, un rapport différent. Un autre truc important, en tout cas, ça me semble, le développement des réseaux sociaux. Ça fait écho vraiment à la théorie de Norbert Elias sur le processus de civilisation des mœurs, où lui, il explique que aussi le processus de civilisation, c'est parce qu'il y a une augmentation des interdépendances. Comme on est de plus en plus interdépendants, enfin, en lien avec de plus en plus de gens, on a de plus en plus de mécanismes d'autocontrôle. Et je pense que les réseaux sociaux, que ce soit, enfin, participent vraiment à ça. Il y a des groupes Signal, notamment aujourd'hui, qui incluent par exemple plein de squats d'Île-de-France, et circulent sur ces groupes des call-outs, c'est-à-dire des dénonciations en fait d'agressions sexuelles ou de comportements autoritaires, par exemple, de certaines personnes, qui font qu'on est montré du doigt publiquement, mais même pas devant son groupe d'amis, c'est-à-dire devant des gens qu'on connaît même pas. Et ça accentue vraiment le contrôle social, la censure. Et enfin, une dernière piste de réflexion, ça serait un phénomène plus général de moralisation d'une partie de l'extrême gauche qui passe à une forme de militantisme beaucoup plus ascétique qu'auparavant. Par exemple, dans le rapport au corps, on peut penser, on passe d'une forme d'hédonisme dans le mouvement punk ou même hippie, c'est-à-dire la recherche de plaisir, de liberté, d'épanouissement sexuel, un rapport au sexe qui va être beaucoup plus contraint, qui est centré sur la répression des agressions, qui va étendre l'acception du sens d'agression en fait à des types d'actes qui auparavant n'auraient pas été de l'ordre de l'agression. Et l'alcool et les drogues sont perçus à travers ce prisme-là, c'est-à-dire ils sont dangereux, ils risquent d'entraîner des agressions, et il y a l'idée que les individus doivent garder un certain contrôle d'eux-mêmes en toutes circonstances. Donc voilà, tous ces éléments-là, ça serait pour expliquer un petit peu qu'est-ce qui, dans les socialisations des jeunes aujourd'hui, permettent d'expliquer aussi qu'ils ne s'approprient pas le rapport au corps de la même façon que les punks de la génération précédente. Merci.
Merci Coralie, on peut prendre un petit temps de questions.
Merci. Voilà, je voulais de suite répondre et j'ai plein de remarques et je vais essayer de faire très court. Déjà, je suis hyper impressionné parce que tout ce que tu as dit, je souscris. Hein. C'est ce que j'ai vu aussi. J'aurais même aimé le dire aussi clairement et frontalement que tu l'as fait dans ma thèse. Tu vois. Donc, effectivement, je souscris à fond. Et j'en profite pour taper sur un collègue qui... voilà, Pierre Rigumeau, hein, qui a sorti son bouquin en 2021, une rediff de sa thèse qu'il avait sortie en 2011, sans réactualiser, sans parler de PIND, sans rien. Et du coup, et c'est là où je pense qu'il y a un autre élément que, à mon avis, plus tard, tu pourrais prendre en compte, peut-être. C'est aussi le rôle de la recherche et des médias, et la relation entre la recherche et les médias, pour légitimer une forme de punk, dans lesquelles, justement, comme tu l'as très bien dit, dans ce rapport intergénérationnel, les jeunes n'arrivent pas à se réapproprier leur histoire. Déjà parce qu'ils ne sont pas au courant. Luc et Solveig en ont bien parlé. Il y a une méconnaissance historique hein, aussi du mouvement. Donc ils peuvent... Mais aussi parce qu'il y a une légitimation dans une culture plus globale, à travers les médias notamment, et à travers ces discours de ce que devrait être le vrai punk, etc., dans lequel je parle en termes d'acteurs du coup, on pourrait se dire, ben non, si c'est ça le punk, nous on n'est pas punk. Donc du coup, une scène punk sans punk, en fait, à l'arrivée. Quoi. Et donc ça, je souscris entièrement. La remarque que je me pose, et c'est une question très méthodologique du coup, je ne sais même pas si on peut envisager une réponse à ça, mais je préfère le poser pour qu'on en discute peut-être après ensemble. Tu as bien posé le processus de civilisation, effectivement. Norbert Elias avait bien montré, effectivement, juste pour tout le monde qui ne serait pas culturé à ça, qui aurait lu son bouquin, il a bien montré qu'effectivement les normes d'hygiène, c'était pas ça qui avait guidé la pratique, mais c'était plutôt une sensibilité sur un processus long, bien plus long que la naissance du punk du coup, qui a été rationalisé après coup par un discours sur le sanitaire, sur machin. Donc voilà, moi je me pose des questions. Est-ce qu'on peut vraiment parler de processus de civilisation sur un temps aussi court? En fait, tu vois. Et ça, peut-être, parce que on a l'impression que le temps se raccourcisse, mais en même temps, Norbert Elias, il avait bien montré, c'était sur plusieurs siècles, en parlant voilà, de la façon de manger, du crachat, de toutes ces choses-là. Donc, est-ce qu'on peut vraiment calquer ça? Est-ce qu'il ne faudrait pas réactualiser selon toi Qu'est-ce que tu en penses de ça, du coup ?
Oui, c'est sûr que là, c'est sur un temps court. Après, je pense que, enfin, je veux dire, c'est comme les processus de longue durée, quoi. Tous les processus sont toujours des processus de longue durée. Puis il y a des moments où, en fait, les oppositions entre un ancien monde, si on peut dire, et une évolution se cristallisent dans des conflits. Et en fait, moi, j'ai l'impression que c'est intéressant parce que je vois se cristalliser des choses, enfin, des oppositions très fortes. Je veux dire, par exemple, l'entretien avec Lou, là, qui dit, enfin, il dit des choses quand même qui sont très véhémentes, quoi. Donc j'ai l'impression de voir se cristalliser des oppositions qui, même si c'est un temps donné, dans un espace-temps donné et très restreint, ça montre un truc plus large. Donc, je sais pas. Mais je trouvais ça intéressant, ce concept, pour penser ça. Après, en tout cas, je pense qu'il y a un vrai tournant avec les réseaux sociaux. Il y a quelque chose qui se joue en ce moment, depuis le début des années 2000. Moi, j'ai l'impression que ça change quand même vraiment quelque chose au niveau de l'autocontrainte, au niveau de la peur du jugement, au niveau... Enfin, même, par exemple, moi, dans les squats dans lesquels je suis, les gens qui veulent porter un discours contraire à ce qui est le discours dominant n'osent pas le dire, en fait. Et du coup, il faut se positionner comme « moi, je suis un peu d'accord avec toi » pour qu'ensuite les gens osent se confier. C'est un truc qu'on dit discrètement. C'est vrai que... Mais les gens ont peur, je sais pas. Il y a un truc quand même vraiment... Bon, en tout cas, voilà, c'est un travail en cours, hein, ce que je disais. Je lance un peu des pistes.
Je me donne la parole. Merci, Coralie, pour cette présentation. Vraiment, ça me fait énormément penser au roller derby. Et du coup, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, en fait, dans le train ce matin avec Audrey, on parlait justement d'un éventuel processus de civilisation de la pratique du roller derby, parce que c'est flagrant avec les mouvements de population entre 2009 et aujourd'hui. La pratique, elle évolue. En fait, avant, on était vraiment dans un rapport très frontal, très dur à la pratique, et on est de plus en plus dans l'esquive. Et je pense que l'entrée aussi de personnes comme moi, qui sont pas, enfin, où on est un peu dans une enveloppe, vraiment ce côté confort dont tu parlais, ce côté, ben, on préserve notre enveloppe personnelle, et ben ça transforme complètement la discipline. Et vraiment, maintenant, on mise beaucoup plus sur le patin que sur le contact. Donc, enfin, voilà, oui, on est sur un temps très court, mais en tout cas, avec Audrey, on s'est posé la question ce matin pour le derby. Puis vraiment, enfin, j'ai adoré. Je retrouve beaucoup de choses sur mon terrain. Donc, voilà. Enfin, puis tu réponds en plus à des zones d'ombre que j'avais. Donc, ouais. Merci beaucoup.
Bah, merci. En plus, moi, ta communication elle fait super écho aussi à ça, parce que tu disais qu'il y avait un peu un moment charnière en 2009, 2010, enfin, dans ces eaux-là. Et moi, j'ai l'impression de voir aussi, en tout cas dans mon terrain, un moment charnière autour de 2010, quoi. Il y a un truc qui se joue à ce moment-là. Bon, ça reste à éclaircir, mais...
Alors, moi, j'ai juste une petite question. Tu penses, quelle est l'importance de la peur de perdre le squat, en fait? Parce qu'en fait, tu parles des gens qui disent non, on peut pas faire ça, il faut être gentil avec les voisins et tout. Parce que c'est par une peur de perdre tout le squat, en fait, de se faire raider par les flics, tout ça. Surtout qu'on est dans une période assez. Le fascisme revient en force, il faut à tout prix se solidariser, il faut à tout prix qu'on ait des zones où on puisse se replier, parce qu'on ne sait pas quand les bottes vont arriver. Et en fait, c'est pas un aspect que tu as abordé, mais est-ce que tu penses qu'il y a le rôle de la peur dedans, qui fait qu'on est obligé de s'autoratiser, enfin, d'être dur avec les autres pour éviter de tout perdre, en fait?
Ça, je sais pas encore, c'est des trucs sur lesquels je réfléchis en ce moment, mais en tout cas, c'est un phénomène plus général qui touche pas uniquement. C'est-à-dire, il y a la volonté de pérenniser les squats. En évitant de faire des vagues, de se faire remarquer par les voisins, il ne faut pas que la police vienne. Mais même moi, je remarque par exemple sur les ouvertures de squats, ça ne se passe pas du tout comme il y a quelques années. C'est-à-dire que maintenant, les gens, ils ouvrent des squats et ils préparent des dossiers comme ça, avec des preuves. Ils souscrivent un contrat électrique, d'électricité, d'eau, des fois des assurances. Des fois, on peut payer en ligne un huissier pour qu'il constate. Enfin, ils font des dossiers énormes comme ça. Ils appellent la police pour dire qu'ils occupent parce qu'ils ne veulent pas attendre que la police vienne. Enfin... Tout le processus, en fait, d'ouverture et même le rapport, c'est-à-dire que ça reste illégal, mais c'est fait d'une façon... Alors, c'est très général ce que je dis, il y a bien sûr des cas différents, mais en tout cas, d'une manière générale, et en tout cas, en particulier en région parisienne, il y a un rapport à la légalité qui a évolué. Alors que moi, ce qu'on me raconte des squats, en particulier les squats militants, en tout cas, par exemple, avant les années 2000 ou au début des années 2000, il y avait des squats qui refusaient carrément d'aller au tribunal, qui disaient on joue pas le jeu de la procédure. Maintenant, ça se voit plus du tout. Et même les squats les plus militants, radicaux, etc., ils vont au tribunal et ils font des dossiers où, ils montrent pas de blanche, qui sont une association, qui contribue à l'intérêt général, etc. Ils font tout ça, quoi. Donc, bon là, ça, je pense que ça s'inscrit dans d'autres choses, au-delà de simplement la peur de perdre le squat, c'est-à-dire qu'il y a un rapport à la légalité et à l'illégalité qui est différent. Et ça, peut-être que ça vient aussi du recrutement des personnes qui vivent en squat avec des personnes qui viennent parfois d'un milieu peut-être plus bourgeois ou qui ont fait des études et qui ramènent en fait leurs capitaux et leurs pratiques. Bon, ça voilà, je suis encore un peu en hypothèse là-dessus, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là-dedans, quoi, qui...
Oui, merci Coralie pour ta com qui était super. Moi j'avais alors plusieurs petites questions. La première, c'est la population d'enquêtés les derniers, donc ils se définissent eux-mêmes comme punk. Enfin, je veux dire, c'est pour eux, c'est parce que quand on t'écoute, on se demande finalement, et c'est pas du tout l'histoire de dire c'était mieux avant, mais que reste-t-il du cœur du punk, c'est-à-dire les modes de subversion par exemple, parce qu'effectivement, moi processus de civilisation, j'entends, enfin de civilisation des corps déjà. Pourquoi pas des mœurs, finalement, parce que le corps est un marqueur parmi d'autres. Je vois pas pourquoi. Et puis, j'entends plutôt processus de normalisation que de civilisation, et ce qui est un petit peu différent pour moi, parce que... Oui, alors, sur la question du processus de civilisation, bah, il y a la question de... On a longuement parlé avec Solveig des seuils de sensibilité, parce qu'on voit bien qu'en fait, on supporte plus rien, bah, d'une certaine manière, hein, cette question. Et du coup, ça remet en jeu ce qu'était le punk initialement, c'est-à-dire la capacité à provoquer. Bah, je veux dire, quand il y a eu ce fameux procès du groupe Viol, justement, ben oui, on s'est dit tout d'un coup, tiens, ben oui, le punk n'est plus le punk, parce que là, tout d'un coup, on est dans une logique de normalisation. Les sensibilités des uns sont ou des unes sont heurtées par la subversion des autres. Voilà, donc tu le mets bien en scène, mais ce que tu dis interroge vraiment ça. C'est-à-dire, finalement, que reste-t-il du punk, d'une certaine manière, et c'est tout ce qu'on interroge dans Peintre, c'est-à-dire la manière qu'a le punk de se réinventer en permanence. Donc, au moins la première question, est-ce que eux se définissent comme punk et, voilà.
Les personnes dont je parlais, là, le groupe de squatteurs qui a entre 35, 45, 50 aujourd'hui, oui, la majorité se définissent comme punk. Ceux qui se définissent plus comme punk se sont définis comme punk auparavant. Et maintenant, alors c'est assez marrant parce que quand je pose la question aux gens, je leur demande en entretien, est-ce que t'es punk ? Et en fait, c'est une question, c'est-à-dire que c'est pas oui ou non, quoi. En général, c'est une réponse très compliquée. Alors, les gens sont là, ils me font des grandes théories sur c'est quoi être punk. Et je me retrouve avec des réponses, des fois, mais vraiment mirobolantes. C'est-à-dire que la personne me dit, un tel qui a une crête, qui est looké punk, ils me disent, lui, il est pas punk. Par contre, ma copine, parce que je l'aime, elle est vraiment punk au fond de son âme. Enfin, c'est-à-dire, c'est de l'ordre du métaphysique, ce que c'est être punk au bout d'un moment pour les gens, quoi. Mais bon. C'est des gens qui, en tout cas, ont joué dans des groupes de punk, ont fréquenté des concerts de punk, sont habillés comme des punks. Donc, ils ont eu cette socialisation très forte à un moment donné de leur vie. Aujourd'hui, en vieillissant un peu, certains, par exemple, Psycho, là, dont je mettais l'entretien, lui, il se définit comme punk. Il est défini comme punk par tout le monde, de toute façon. Quand on le voit, c'est le punk. Certains se définissent moins comme punk, mais ça reste... Je pense pour certaines personnes, ça reste en fait une identité qu'ils ont eue à un moment donné de leur vie qui les a marqués à jamais, même si aujourd'hui ils ne l'arborent plus aussi fortement, quoi.
Super, parce que ça fait un petit peu penser au fou du roi. C'est-à-dire, c'est celui qui est là et il peut tout faire, en fait. On conserve ce côté transgressif, mais pour un seul. Donc ça aussi, ça réinterroge ce que c'est être punk dans ce rapport de l'individu à la collectivité, par exemple.
Merci beaucoup, Coralie. Merci à tous les trois pour vos interventions.